Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Colossiens. Vous avez lu normalement les 17 premiers versets de Colossiens, chapitre 3. Donc Colossiens, chapitre 3. Alors, c'est la partie pratique, on pourrait dire, de l'épître de Paul aux Colossiens. Donc, bien sûr, avant, pour bien tout bien saisir, il faut lire tout Colossiens, tous les deux premiers chapitres aussi, constituent un peu le fondement de ce que Paul dit. Alors, ceux qui ont mémorisé, peut-être ils ont un peu encore quelque chose qui reste de cette épître. C'est surtout les versets 5 à 17 que je propose à notre méditation, mais pas tout ça pour ce soir. Parfois, on peut aborder la Bible en survolant, comme quand on visite quelque part, et on peut visiter parfois en avion ou en hélicoptère, si vous avez déjà, c'est pas si vous avez fait l'hélicoptère, mais on voit quelque chose qui est, on surplombe, hein. On voit les grandes lignes, les grandes choses, et parfois on peut aborder l'écriture en voyant des grandes sections. Et puis quelquefois, il faut descendre et se poser sur le paysage et prendre petite rue par petite rue. On va visiter la ville. Hein. On l'a vu de loin, on a dit, ah, il y a une cathédrale ici, il y a ça là, c'est pas mal, il y a un grand parc là-bas, on a pu voir tout ça. Mais parfois, il faut se poser et puis aller se balader dans le parc, entrer dans la ville, entrer dans les rues et on découvre encore d'autres choses. Alors, je ne sais pas, quand on lit quelque chose comme au verset 5 où il dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Alors, on a lu ça peut-être des dizaines et des dizaines de fois, mais combien de fois on s'est arrêté peut-être sur chaque chose pour pouvoir dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la cupidité ? Qu'est-ce que l'idolâtrie ? Qu'est-ce que la débauche ? » Et puis, par exemple, vous lisez au verset 8, « Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. » C'est quoi l'animosité ? C'est quoi la colère ? C'est pas juste, quand je dis c'est quoi, c'est pas juste une question de définition, mais qu'est-ce que l'Évangile entend par là ? Qu'est-ce que Dieu dit ici quand il me demande cela ? Et s'il me demande quelque chose, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour obéir à tous ces commandements ? Parce que ce sont des commandements. Et il y en a beaucoup ici. Hein. Et tout ça, ça nous amène jusque vers ce que Paul dit ici dans ses versets, jusque vers la fin, là où il dit, où il parle du pardon, hein, et qu'on a vu ces derniers temps. Et donc, on pourrait dire, si toutes ces choses ne sont pas là, on a du mal aussi à pardonner, parce que tout cela, ça vient quelque part comme quelque chose, un ensemble de choses qui doivent être en place et qui aboutissent à une relation comme Dieu veut pour nous. Mais avant de faire cela, verset 5, l'apôtre Paul fait quelque chose du verset 1 au verset 4, où il va présenter le chrétien dans ce qu'il est par rapport à Christ. Parce que c'est important de voir, hein, n'est-ce pas ? D'avoir les réalités qui concernent le salut, qui concernent la relation avec Christ, pour pouvoir saisir la portée des commandements pratiques. Et l'apôtre Paul écrit souvent comme cela. Si vous lisez Romains, vous vous rappelez que les 11 premiers chapitres, c'est de la pure doctrine. Et puis, à partir du chapitre 12, on est dans la pratique. Pareil pour Éphésiens. On a les 3 premiers chapitres, la doctrine, et puis à partir du chapitre 4, ainsi donc, hein, et c'est à peu près la même chose ici, sauf que dans les 4 premiers versets aussi, hein, on pourrait dire que c'est un peu de doctrine. Alors, parfois, on établit une distance entre la doctrine et la pratique. Et parfois, on prétend connaître la doctrine, et tout en se souciant peu de la pratique. On connaît ce que c'est que le salut, on connaît justification, etc., toutes ces choses. Et puis, on peut mettre la pratique un petit peu de côté. Parfois même, on préfère qu'on nous parle de doctrine plutôt que de pratique. Hein. Si on dit, voilà comment nous sommes en Christ, ça va. Mais si on dit, la Bible dit, renonce à telle chose, est-ce que, comment tu fais pour renoncer à telle chose? Là, on dit, oh, ça va, pas besoin. Hein. Prêche-nous la doctrine et laisse-nous nous débrouiller tout seul avec la pratique. On est suffisamment grand pour le faire nous-mêmes. C'est un peu comme ça qu'on a tendance à réagir tous, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul fait les deux, lui. Il donne l'Écriture, donc le Saint-Esprit nous donne l'enseignement doctrinal, mais vous voyez, mais avec beaucoup de pratique. Et l'apôtre Paul dit, quand il parle devant, je ne sais plus, je crois que c'est le roi Agrippa, dans Actes, où il dit, j'ai enseigné la repentance et la foi en Jésus-Christ, doctrine, et puis il ajoute avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Intéressant, il dit voilà, j'ai enseigné la doctrine profonde, mais à côté de ça, il a enseigné précisément comment on doit se conduire. Et c'est important de s'arrêter, peut-être parfois un peu plus longtemps, sur le comment on doit se conduire, la pratique. Alors ce soir, on va regarder d'abord néanmoins les quelques versets qui traitent de la doctrine, de la relation, de l'union que Paul présente ici entre le Christ et le croyant. Et puis, au fur et à mesure, peut-être qu'on essaiera de faire presque point par point quelque chose qu'il commande de faire pratiquement ici. Qu'on puisse prendre le temps de voir dans la Bible comment ces choses sont développées, comment est-ce que je dois les penser, comment est-ce que je dois les méditer, comment est-ce que je dois faire pour obéir à ces choses spécifiques que l'Écriture nous commande. Alors, on va lire encore ce passage. Enfin, juste remarquer que des versets 1 à 4, bien, il est question d'une... Paul parle de la relation que le chrétien entretient avec Christ. Et puis, à partir du verset 5, c'est tout un tas de recommandations qui globalement, pourrait dire que toute cette section, si on devait résumer les quatre premiers versets, c'est comme s'il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut parce que vous êtes morts ». C'est ça qu'il dit un peu. Hein. Et puis, à partir du verset 5, c'est comme s'il dit « Mais puisque vous êtes morts, faites mourir ». D'accord ? Un petit peu. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Et puis après, il dit tout ce qu'il faut faire mourir, avec un aspect négatif, renoncez à ceci, ne faites pas cela, et aussi avec un aspect positif, revêtez-vous de ceci, revêtez-vous de cela. Okay. Et il termine en disant verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, donc là on est vraiment dans la pratique, pratico-pratique, hein, il dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, eh bien, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, on va regarder le verset 1 à 4, je vais les relire. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La première chose qu'on peut souligner ici, hein, on voit Paul souligne vraiment la réalité de la relation du chrétien avec Christ, la position du chrétien en Christ. Les Colossiens couraient le danger de se laisser imposer, si vous lisez les deux premiers chapitres, toutes sortes de préceptes légalistes, dit Colossiens 2:20, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. L'apôtre Paul dit, voilà, on vous dit tout un tas de choses comme cela. Et pour les aider, Paul ne dit pas en premier lieu ce qu'ils doivent faire, mais ce qu'ils doivent savoir, premièrement. Ouais. Toujours ainsi, il montre ce qu'ils doivent savoir de la personne de Christ. Et donc, c'est pour ça que dans les deux premiers chapitres, il développe vraiment la suprématie de Christ. Il montre vraiment comment Christ, la grandeur de Christ. Et puis, ici, dans les versets, il montre que le chrétien doit savoir quelle relation il entretient avec Christ, quelle est la nature de la relation qu'il entretient avec Christ. Il dit donc, si donc vous êtes ressuscité, alors il dit deux choses ici, vous êtes ressuscité avec Christ. Ben, si vous avez déjà pensé à cela, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je lis ça, je suis ressuscité avec Christ en tant que chrétien. Okay. Il avait dit ça en Colossiens 2, verset 12. Regardez, il avait dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Voilà. Ici. Et donc le sens, c'est qu'on est des... Le chrétien est un co-ressuscité. C'est ressuscité ensemble. Voilà. Un co-ressuscité. Ici. Donc lors de sa conversion, qu'est-ce que ça veut dire? Lors de sa conversion, le chrétien est uni à Christ. Vraiment uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire que parfois on peut considérer le salut comme quelque chose que Christ a fait pour nous ou à notre place. Il est mort pour nous. Et puis après c'est tout. Bon, maintenant je ne risque rien parce que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Ça reste comme ça. Mais l'Écriture souligne bien nettement que ce qui se passe, c'est que le croyant, celui qui place sa foi en Jésus-Christ, il devient uni à Jésus-Christ. Et ce quoi Paul insiste ici, c'est vraiment l'union qui existe entre on pourrait dire, ces deux personnes, entre Christ et le chrétien, et chaque chrétien. Ce n'est pas juste une affaire de quelqu'un qui a fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste une affaire d'être préservé d'un châtiment qui doit venir. C'est plus que cela, c'est une union qui existe dans laquelle même ce que Christ a fait, c'est comme si le chrétien l'avait fait ici, hein. Quand il dit vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ, mais en fait, dans la réalité, nous ne sommes pas morts physiquement et nous ne sommes pas encore ressuscités physiquement parce que nous ne sommes pas morts, mais dans la réalité physique, mais la vérité spirituelle, l'apôtre Paul dit, c'est comme si vous étiez mort, c'est comme si vous étiez ressuscité. Et c'est ainsi qu'il faut voir les choses, et les approfondir pour comprendre quel est l'impact. Et savoir ça est important parce que le savoir, c'est ça qui permet, et le posséder, c'est ce qui permet de vivre d'une manière particulière. Et c'est peut-être pas très visible ici, mais dans Romains, c'est très clair. Regardez Romains chapitre 6, je vais vous lire. Romains chapitre 6, verset 2. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Donc il parle de cette mort que le chrétien connaît. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, c'est de la doctrine ou c'est de la pratique? C'est la doctrine spirituelle. Ce qui s'est passé spirituellement, c'est une réalité spirituelle. Et il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est de la doctrine ou de la pratique? C'est de la pratique. Vous voyez ici le lien, il dit, voilà, donc saisir cette réalité-là doit vous permettre de considérer comment vous devez vivre dans votre vie de tous les jours. Il dit, si vous êtes mort avec Christ, vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Autrement dit, la réalité spirituelle de ce qui s'est passé avec Christ est incompatible avec une vie dans le péché. Donc Paul traite de la question de la vie pratique, ici on le voit, hein, comment vivre, en la reliant profondément à la réalité spirituelle de ce que nous sommes, de ce qu'est le chrétien, ressuscité avec Christ et mort avec Christ. Et il le dit encore les deux versets d'après en Romains, il dit, ignorez-vous, quelque chose donc à savoir, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc là, il parle quand même du baptême que l'on prend en Christ, qui est le baptême. On peut parler du baptême du Saint-Esprit, mais aussi le baptême d'eau, hein, que l'on symbolise par le baptême d'eau quand on se fait baptiser. Il dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que nous avons été baptisés, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, relation, de même, nous marchions en nouveauté de vie. Et cette marche en nouveauté de vie, c'est de la pratique, ici. C'est de la pratique. Donc, il est ressuscité, et de même que Christ est ressuscité, eh bien, vous aussi, vous êtes ressuscité avec lui, pas pour vivre comme vous viviez autrefois, mais pour marcher dans une vie nouvelle. Dans une vie nouvelle. Et c'est, ça rejoint vraiment ce que Paul dit ici. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes mort avec Christ, alors voilà comment vous devez vivre à partir du verset 5. Donc, Paul souligne vraiment la grande réalité de l'union avec Christ ici. Il dit par la conversion, le croyant rentre dans une union avec Christ et cette union est caractérisée par l'association du croyant à la fois à la mort et à la résurrection de Christ. Et il y a un commentateur qui le dit comme ça, il dit « Ceux qui lui sont unis dans sa mort, ils sont morts quand Christ est mort et ressuscités quand il est ressuscité. » Sa mort leur assure la sanctification aussi bien que le pardon. Il dit, elle a rendu certaine leur mort au péché et leur vie pour Dieu. Donc ce qui s'est passé dans l'œuvre expiatoire de Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, le chrétien est associé à cela, il meurt aussi et il revit aussi. Il meurt à cette vie, ce que Paul dit ici, hein, vous, car vous êtes, verset 3, car vous êtes morts, okay. Et puis ils revivent, ils renaissent, ils reviennent à la vie pour Christ. Cette vie maintenant, elle appartient à Christ. Il dit, vous êtes morts, verset 3, et votre vie est cachée avec Christ maintenant en Dieu. Et donc il dit, voilà quelle est un peu la réalité dans laquelle vous vivez. C'est un fait accompli, la mort et la résurrection de Christ, c'est un fait accompli, votre union avec Christ, ici. Et je ne fais pas des efforts, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui implique après des efforts dans la vie pratique. Donc, l'apôtre Paul disait ça pour lui-même dans Galates 2:20, vous connaissez bien ce verset où il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. » D'accord ? Donc, Paul dit, je vis, c'est ma vraie vie que je vis. C'est Paul qui vit, c'est Paul qui marche, qui va ici, qui va là. C'est Paul qui parle. Mais il dit, maintenant que je suis en Christ, il dit, ce que je vis, c'est Christ qui le vit en moi. C'est-à-dire qu'il est conscient que cette vie qu'il est en train de mener, il faut qu'il la vive conformément à ce qu'il est. Il a été crucifié avec Christ. Et maintenant, il vit pour Christ. Et donc, il marche d'une manière qui est conforme à ce qu'il est spirituellement, maintenant. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici aux Colossiens. Si, donc, alors le « si » n'est pas quelque chose qui met un doute. Hein. On aurait pu remplacer le « si » par « puisque ». « Puisque vous êtes ressuscité ». Et c'est important de voir. Il ne dit pas « vous serez ressuscité si vous faites ceci ». Il dit « c'est une réalité, vous êtes ressuscité et vous êtes mort ». Ce n'est pas une question, quelque chose qui dépend de volonté. Je n'ai pas dit « ouais, aujourd'hui j'ai envie d'être ressuscité, puis demain ». Non, c'est « vous êtes ressuscité et vous êtes mort ». C'est une réalité dans laquelle Christ nous place. Alors, cette réalité-là a des implications. Et les premières, on le trouve même dans ces versets. Il dit « donc si donc vous êtes ressuscité avec Christ », qu'est-ce qu'on doit faire ? Chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que votre union avec Christ est elle est tellement étroite, il dit, que vous êtes associé à lui dans sa mort et sa résurrection. C'est une chose. Hein. Et elle est tellement étroite que tout ce que vous devez faire doit avoir Christ pour centre. Et vous ne pouvez pas être ailleurs, avoir des aspirations en dehors de Christ. Vous ne pouvez pas chercher où Christ ne se trouve pas. Vous ne pouvez pas penser où Christ n'est pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ. C'est-à-dire que si vous prétendez que votre vie maintenant, elle appartient à Christ, vous marchez en nouveauté de vie, eh bien vous devez chercher les choses d'en haut et non celles qui sont... où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous devez vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est intéressant ici. Quand le chrétien, une des premières choses qui se passent dans sa vie, c'est que les choses prennent... se polarise. Avant, quand on n'est pas un enfant de Dieu, on n'est pas un chrétien, tout est tout, hein, on fait ce qu'on a envie de faire, etc. Mais quand on devient un enfant de Dieu, les choses prennent, il y a des choses qui prennent deux pôles. Il y a des choses qui sont des choses d'en haut et des choses qui deviennent des choses d'en bas. Hein. Et c'est un peu comme ça. Et la Bible parle un peu comme ça. Est-ce que vous avez d'autres séparations comme ça qui vous viennent à l'esprit, hein? Par exemple, il dit, j'avais noté quelques-unes, il y a des choses qui sont des choses célestes et des choses qui sont terrestres. Qu'est-ce qu'on nous donne encore dans l'Écriture pour montrer la différence entre ces deux pôles, ces deux choses, deux domaines? Il y a des choses visibles et des choses invisibles. Il y a des choses éternelles et des choses passagères. On trouve ça... bien sûr, dans l'Écriture, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, hein, d'accord, les choses anciennes et les choses qui sont des choses nouvelles. Donc, il y a cette espèce de transformation du croyant qui voit maintenant les choses différemment. Il y a des choses qui sont considérées comme des choses d'en haut et des choses qui sont considérées comme des choses d'en bas, ici. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, lui-même, il le dit en Philippiens chapitre 3, verset 7, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi, quoi, des gains, je les ai regardées, je les regarde maintenant comme une perte, comme de la boue, comme une perte. » Donc les choses prennent tout de suite, et puis il y a d'autres choses, bien sûr, qui deviennent excellentes. Il dit, pourquoi est-ce qu'il regarde ces choses comme de la boue? Parce que maintenant, il y a quelque chose qui est devenu excellent, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc les choses se sont séparées en deux catégories. Et quand on devient un enfant de Dieu, les choses se séparent en deux catégories. Donc Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien votre recherche doit être vers ces choses d'en haut. Alors bien sûr, la différence qu'il établit ici entre les choses d'en haut et les choses qui sont en bas, c'est pas la distance géographique, hein. On comprend bien, il n'y a pas des choses qui sont juste dans le ciel et puis des choses qui sont sur la terre, et puis c'est très séparé, tout ce qui est sur la terre, ce n'est pas bon, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans la nature des choses. On comprend bien que c'est dans la nature des choses, hein, qu'il faut voir cette différence. Les choses d'en haut sont les choses qui concernent vraiment Christ, hein, qui peuvent me rapprocher de lui, qui me permettent de grandir, de croître dans la connaissance de Christ, et les choses d'en bas sont les choses qui sont vraiment passagères, qui parfois peuvent être bonnes, mais qui ne sont pas celles que je dois rechercher, celles auxquelles je dois m'attacher. Donc ça, c'est ce qui souligne. Donc, quelle est la nature de cette recherche, on pourrait dire de cette affection que doit avoir le chrétien ici dans ses premiers versets? Eh bien, il dit qu'il doit chercher, s'attacher, ça veut dire aussi penser, hein. Penser aux choses d'en haut. Hein. Ce mot-là veut dire, on peut le traduire par attaché aussi, ou par le fait de penser, avoir ses pensées focalisées sur les choses spirituelles. Et donc l'affection dont parle Paul ici, on pourrait dire, ce n'est pas un appel à délaisser complètement les choses de la vie courante. C'est pas cela, c'est pas vivre en ermite, on va s'isoler, on ne touche plus à rien, etc. Il ne s'agit pas de se laisser aller à des rêveries, hein, comme ça. Je vais rêver aux choses d'en haut. Ah, je vais penser à l'amour, à la paix, à la joie. Et puis je suis méditatif sur l'amour, la joie. D'accord ? J'essaie de contempler les mots, les concepts. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ce n'est pas ce dont il parle ici. Hein. Il ne demande pas de faire des efforts de concentration spirituelle de notre pensée. Hein. Ce n'est pas ce qu'il dit. Le sens, c'est plutôt que la manière de penser et la manière de vivre du croyant doivent être conditionnées par son attachement à Christ, par sa recherche de ce qui plaît à Christ. D'accord. Et il est tellement attaché à Christ que dans la vie de tous les jours, eh bien, les choses vont être gérées, vont être conditionnées par le fait qu'il se sait uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Christ devient tout pour lui et sa manière de raisonner, sa manière de vivre, sa manière de penser le monde, ce n'est pas la manière avec laquelle le monde pense, c'est la manière avec laquelle l'Écriture pense les choses. C'est la manière avec laquelle sa nouvelle relation avec Christ lui permet de considérer les choses. Il n'est pas étranger à la vie terrestre. Il va travailler, le chrétien, il mange, il boit, il travaille, il dort, il entretient des relations avec ses voisins, avec ses collègues, mais toutes ces choses sont pénétrées, on pourrait dire, de son attachement à Christ. Pour donner une idée, hein, c'est comme un ambassadeur, hein, l'ambassadeur français à Washington, par exemple, hein, il fixe ses pensées sur les choses françaises. C'est ce qu'il fait en général, en recherchant les intérêts français, tout en étant dans les circonstances américaines. Il vit dans un environnement américain, mais il cherche les intérêts français. Donc, il va manger au restaurant américain, il va faire des choses, il va avoir des échanges, etc. Mais quand il va devoir réfléchir pleinement aux choses, il est en train de son ministère, on pourrait dire, hein, son attachement en tant que Français. Il ne passe pas sa vie en s'asseyant et puis en essayant de se rappeler les scènes françaises. Ah, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, oh, les Champs-Élysées. C'est pas comme ça qu'il fait, d'accord? Il vit sa vie aux États-Unis, à l'américaine presque, mais enfin, je veux dire, chez les Américains, mais ses intérêts, hein, il cherche toujours à promouvoir les intérêts de son pays. C'est comme cela que, du coup, bon, Jean-Pierre peut dire ça mieux que moi, certainement, parce qu'il travaille dans ces trucs, mais c'est comme ça que font les ambassadeurs. Donc, c'est pour ça que Paul dit plus tard, dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit, si donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il ne dit pas ne mangez pas, ne buvez pas, ne faites rien et ne pensez qu'à Dieu. Il dit non, quoi que si vous mangez, si vous buvez, et vous mangez, vous buvez, si vous faites autre chose, vous allez faire du sport, vous allez discuter avec un ami, vous allez faire ceci, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas quelle est votre motivation. D'accord ? C'est toujours de glorifier Dieu. Et cela doit être présent parce que vous êtes ressuscité avec Christ. Et un peu plus loin, donc au verset 3, il dit « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. » Alors, notons ici qu'il n'est pas dit « Vous étiez mort », mais il dit « Vous êtes mort ». Donc, les chrétiens sont des morts. Ils sont des vivants. Et en même temps, ils sont des morts. Concept un peu particulier. On est vivant pour Christ, mais on est mort en même temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, ça veut dire qu'il y a une vie à laquelle se rattachent les choses de la terre. Et à cette vie-là, le chrétien, il est mort. Il est mort à cette vie-là. Okay. Philippiens 3, 19. L'apôtre Paul parlait il parle de ceux qui étaient des ennemis de la foi, des ennemis de l'évangile. Il dit ceci, il dit, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour ventre leur Dieu et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent, c'est le même mot que « affectionnez-vous » qu'on a vu tout à l'heure hein, ici, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils vivent pour les choses de la terre. Quant aux choses de la terre, ils sont bien vivants. D'accord ? Et le chrétien, lui, pour les choses de la terre, il est mort. Et c'est ce que dit Paul ici. Il dit, quand Christ est mort, il est mort pour éradiquer le péché. Vous, vous êtes en lui mort aussi aux choses de cette vie, aux péché. Il y a toutes les choses de cette vie. Cette mort, ici, caractérise le véritable chrétien. Il regarde le monde comme, voilà, comme s'il était mort pour ce monde-là. L'apôtre Paul le dit très clairement en Galates 6, 14, il dit, pour ce qui me concerne, c'est comme ça qu'il parle, je trouve que c'est très bien dit, comme c'est la parole de Dieu, hein. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Quel que soit le côté de la croix, on se place, d'accord, le chrétien, donc si c'est le chrétien qui regarde le monde, ou le monde qui regarde le chrétien, on voit une croix, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que Paul dit ici, hein, il dit, le Christ, je me glorifie de la croix de Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi je suis crucifié pour le monde. Autrement, l'apôtre Paul dit, quand moi je regarde le monde, je le vois crucifié. Touche pas. Il dit, d'accord, le monde est crucifié pour moi. Et quand le monde me regarde, aussi, le monde voit que Paul est crucifié, aussi. C'est ce que ça veut dire. Il est mort pour le monde est mort pour lui. Donc il n'y a pas, il dit ici, il n'y a pas d'attachement. Paul voit le monde crucifié, le monde voit Paul crucifié. C'est comme ça que les gens devraient voir les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont... ils sont inertes pour toutes les choses, les affections du monde. Et ils sont par contre extrêmement vivants pour toutes les choses qui concernent l'évangile et qui concernent Dieu. Okay? Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans le monde, je le dis encore une fois, mais ça veut dire que ce ne sont pas les choses du monde que l'on recherche. Et ces choses, pour ces choses, nous devrions être comme des personnes qui sont morts. Je me rappelle de cette histoire de cet homme qui demandait à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire être mort à soi-même. Et ce vieux monsieur lui dit écoute, tu veux savoir ce que c'est qu'être mort à soi-même? Eh bien, tu vas dans un cimetière et tu prends n'importe quelle tombe. Et puis tu dis les choses les plus méchantes que tu peux dire contre cette personne. Tu ne la connais pas, mais voilà. Tu dis, elle n'est pas gentille, etc. Puis, bref. Et il est allé, il a fait, et puis il revient voir le monsieur, il dit, oui, j'ai fait. Et puis il dit, alors? Il dit, alors rien, il ne s'est rien passé. Il dit, bon, on retourne alors. Tu retournes, et puis tu dis toutes les choses gentilles que tu peux dire. Mais vraiment gentil, hein. Voilà, tu parles toutes les choses gentilles que tu peux dire. Et il y va, il fait, puis il revient, puis il dit, alors? Il dit, il ne s'est rien passé. Il dit, c'est ça, être mort, soit. C'est-à-dire, que l'on nous dise des choses extrêmement gentilles, que l'on nous dise des choses pas très gentilles, eh bien, à froid, ce n'est pas ce qui est le plus important. D'accord? Ce n'est pas ce qui est le plus important. Hein? Parfois, on aime bien quand on nous dit des choses gentilles. Et si on nous dit une petite chose méchante, voilà, on démarre tout de suite. Hein? Pourquoi? Parce que l'orgueil surgit. Hein? L'orgueil surgit. On n'est pas mort à soi. Parfois, on dit des choses gentilles. Alors, on est tout content parce qu'aussi, il y a de l'orgueil, hein, qui est là et qui surgit. Voyez. Et on n'est pas... En fait, on est encore attaché. Ça veut dire qu'on est encore attaché à ces réactions qui sont, qui sont un peu naturelles, mais qui sont des réactions qui sont régies parfois par la nature orgueilleuse que l'on peut avoir, n'est-ce pas? Et donc... quand Paul dit ici que vous êtes mort aux choses de cette vie, alors peut-être on va nous dire des gentillesses, peut-être on ne va pas nous dire des gentillesses, mais ce n'est pas ce à quoi je dois réagir. Je dois savoir que je suis à Christ, je suis associé à Christ, je suis ressuscité avec Christ, mort avec Christ, d'accord? Que je dois chercher les choses d'en haut, je dois chercher toujours ce qui le glorifie. Et ce n'est pas ce que l'on peut me dire de gentil, ce que l'on peut me dire de mauvais, qui doit être une chose importante pour moi. C'est vraiment la nature de la relation que j'entretiens avec Christ. Et dans ce que je vais avoir comme attitude vis-à-vis des autres, c'est cette relation avec Christ qui doit gérer toutes choses. Et on va voir après là que dans les deux catégories de choses, Paul parle de deux catégories de choses, il parle des choses qui sont personnelles de la vie et des choses qui sont relationnelles. Et il dit que la manière d'agir dans ces choses naturelles, hein, enfin que j'ai dit non, pardon, personnelles et les choses relationnelles, eh bien, sont régies par la réalité que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes aussi morts avec Christ et que cette réalité spirituelle est ce qui doit nous conditionner dans toutes les relations et notamment, particulièrement, dans la lutte, et c'est ça à quoi on veut venir les prochaines fois, dans la lutte contre le péché, dans le fait de faire mourir en nous le péché. Si on n'a pas cette réalité présente de ce que l'on est en Christ, eh bien, on ne va pas rechercher ces choses comme nous devons les rechercher ici. Que le Seigneur nous aide donc à saisir cela. On va s'arrêter ici pour ce soir. Et puis, les prochaines fois, on essaiera de voir un petit peu point par point. Ça va prendre du temps, mais un petit peu point par point, on va la méditer un peu sur des choses peut-être sur lesquelles on ne parle pas souvent. Mais elles sont importantes parce qu'elles sont dans l'Écriture et il est important de voir comment on peut obéir à ce que l'Écriture nous dit ici. En tout cas, que le Seigneur nous aide à être émerveillé par ce que Christ a fait pour nous, l'union dans laquelle il nous a placés, hein, la puissance de vie qu'il nous donne, hein, la sécurité, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, la perspective qu'il nous donne aussi. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, dit-il, l'apôtre Paul, dans quoi? Dans la tristesse? Dans la gloire. Hein. Quelle perspective? Tout cela par le sacrifice que Christ a accompli à la croix pour nous. Mais en attendant, il dit, faites donc mourir. Et ça, c'est important aussi, c'est ce que nous avons à faire pendant notre temps de notre vie sur la terre. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et pour cette réalité dans laquelle tu places chacun de tes enfants sous ceux qui t'appartiennent. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous as pas sauvés, juste et préservés du châtiment éternel, mais plus que cela, tu es venu pour que nous soyons unis à toi, dans ta mort et dans ta résurrection, pour que ta vie même devienne notre vie. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes ressuscités avec toi, nous sommes morts avec toi, nous vivons en toi, nous pouvons chercher les choses où tu te trouves, notre vie est cachée en toi. Nous te louons pour toutes ces réalités qui dépassent notre intelligence, mais qui sont vraies parce que tu nous les dis. Et merci pour cette perspective que tu nous donnes aussi d'être un jour avec toi dans la gloire. Que ces vérités nous aide à apprécier le salut que tu as accompli pour nous et nous aide aussi à nous détourner du péché et à abandonner tous ceux qui ne te glorifient pas. Te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.